Le capitalisme numérique. Ouais, c'est un peu... ça veut tout dire et rien dire en même temps. Enfin, je suis plutôt intrigué.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, une heure pour mieux comprendre notre époque autour d'un mot, d'une expression qu'on entend souvent, qu'on emploie parfois, sans pour autant toujours savoir exactement de quoi on parle. Aujourd'hui, zoom sur ce qui est peut-être une nouvelle phase du capitalisme. Pour certains, on y va tout droit. Pour d'autres, on y est déjà. Le capitalisme numérique, aussi appelé capitalisme de surveillance, il est évidemment lié à l'essor d'Internet et la mainmise des GAFA sur nos vies, comme quoi les présentateurs de JT des années 90 avaient peut-être raison quand ils se demandaient avec des accents tragiques.
Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers ?
Oui, mais pas comme on l'envisageait alors. Le danger, c'est d'être désormais fliqué par des géants privés et plus que fliqués, orientés, manipulés avec la publicité ciblée grâce à l'extraction de nos données devenue la nouvelle manne capitaliste par excellence. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau capitalisme 2.0 ? Est-il l'ultime étape avant l'avènement d'un monde orwellien ? Oui, on devrait pas mal se marrer cet après-midi.
Mathieu Noël sur France Inter.
Pour m'aider à me repérer dans cette nouvelle jungle numérique, deux jeunes journalistes qui, eux, n'ont pas connu le monde d'avant Internet, ce monde où Scully pouvait s'exclamer dans un des tout premiers épisodes de X-Files et sans que ça ne choque personne à l'époque.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Oui, c'était l'époque où on appelait Internet pour qu'ils nous faxent des numéros de téléphone. Eux n'ont pas connu ça. Bonjour Quentin Lui et Manon Mariani.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors oui, le monde bouge, le capitalisme évolue et heureusement vous êtes là pour me tenir informé. Manon, c'est même votre métier d'avoir un coup d'avance. Vous scrutez pour nous les réseaux sociaux afin de nous raconter ce dont on va parler demain.
Oui, je vous emmène en Chine aujourd'hui où des applications ont drôle de noms Carton, Momo, Tantan, Biline. Et spoiler, elles ont un concept que j'expérimente beaucoup moi-même à Paris. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Okay. Les applis de rencontre, quoi.
Bonne pioche.
On vous a détecté assez rapidement. Face à vous, Manon, après la diffusion hier de son imitation de Vianney, la production de The Voice Kids essaye de nous le shipper, mais non.
Je suis une cruche.
Non, mais journaliste avant tout, c'est ce que vous leur dites. Quentin Lui, vous résistez aux appels du pied du showbiz et vous restez avec nous sur Inter. Votre dada, le journalisme de terrain, chaque jour, vous tendez votre micro aux passants et bien pour savoir ce que leur inspire notre thème du jour. Alors, le capitalisme numérique, ça leur parle ?
Oui, bah ça leur parle parce qu'il est partout. On n'a qu'à regarder les portables, les PC portables, les écrans publicitaires numériques, les voitures qui se garent même toutes seules. Ça nous encercle et parfois ça vous fait peur. J'étais hier à Bastille pour Zoom Zoom Zen en extérieur.
Un spécialiste des applis de rencontres chinoises, un préadolescent imitant Vianney, d'aucuns auraient jugé que ça suffisait pour aborder la question du capitalisme numérique. Pas moi, j'ai préféré inviter un professionnel de l'économie. Il est la personne au monde dont j'ai le plus surligné les bouquins durant mes études. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on se rencontre enfin. Voilà. Alors Daniel, vous êtes directeur du département d'économie de l'École normale supérieure et membre fondateur de l'École d'économie de Paris. Vous venez de publier un essai passionnant intitulé « Homo numericus, la civilisation qui vient » aux éditions Albin Michel. Alors, je le disais un peu sur le ton de la boutade en préambule, vous n'avez pas l'air de rigoler du tout, vous l'écrivez d'ailleurs page 59, « Nous vivons la prophétie d'Orwell de manière totalement imprévue ».
Oui, imprévu, parce que pour Orwell, c'était le pouvoir d'État, le pouvoir central. Au fond, c'était une image à peine modifiée des totalitarismes de l'époque soviétique notamment. On vit tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas de faire taire les gens. Au contraire, il s'agit, dans ce capitalisme numérique, de leur demander de s'exprimer, en fait, d'aller au plus loin de leur expression, de l'expression de leur identité, pour capter justement tout ce qui peut l'être, et ensuite leur offrir, le cas échéant, des publicités adaptées à leur goût. Voilà, c'est tout à fait différent d'Orwell, mais ça en a les mêmes forme, tout est surveillé, tout est mesuré, tout est sous-pesé de ce que vous faites.
Face à vous, Daniel, un individu qui prétend avoir fait Sciences Po, quoique personne ne l'ait jamais croisé rue Saint-Guillaume, en tout cas pas moi. Il est le client parfait de Google puisque ses recherches, toujours les mêmes, moto anglaise grosse cylindrée, montre suisse, barbecue Weber et charcuterie ibérique, permettent de lui proposer assez facilement des publicités ciblées. Bonjour Cyril Lacarré.
Bonjour, il rigole à ses propres blagues.
C'est tellement vous, il n'y a plus de fiction avec vous, c'est la réalité.
C'est la réalité,
Chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre expression du jour. Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est une expression qu'on a un peu bricolée pour faire entrer tout plein de trucs dedans, dont Daniel Cohen, je vous souhaite bonne chance. Cyril, le capitalisme numérique, d'où ça sort ?
Eh bien, pour comprendre d'où vient ce capitalisme numérique, commençons par remonter la naissance du World Wide Web. Car sans Internet, pas de capitalisme numérique. Vous me direz, dans ce cas, remontons aussi aux sources du capitalisme. Et c'est pas idiot. Sauf que contractuellement, le douceur ne doit s'attarder que sur un mot, donc numérique pour le capitalisme. Vous avez le meilleur invité qui soit. Et puis vous-même, Mathieu, vous en savez quelque chose après vos années de pantouflage dans le giron d'un certain Arnaud L. Le World Wide Web, donc, c'est au chercheur anglais Tim Berners-Lee qu'on le doit. C'est lui qui, en 1989, met sur pied un système permettant à des scientifiques du monde entier d'échanger des informations instantanément. Ce n'est pas exactement de cet Internet que vient le capitalisme numérique dont vous allez nous parler, Daniel Cohen. C'est après que ça se complique. Avec l'apparition des géants de la tech et de leurs fameux algorithmes, notre société va doucement mais sûrement basculer. Tiens, les algorithmes. Allez, je vous fais une fleur, un deuxième mot pour le prix d'un.
Non. L'algorithme. Monsieur, vous allez le facturer, je vous connais, vous allez le facturer.
Ah oui, je vais facturer. L'algorithme, d'où ça sort? Eh bien, de l'esprit d'un mathématicien perse appelé Al-Khwarizmi. C'est au 9e siècle, dans son ouvrage, abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, qu'il résout des équations du second degré par des algorithmes. Ce livre est par ailleurs considéré comme le premier manuel d'algèbre. Et l'algèbre, d'où ça sort?
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Bien, eh bien je m'arrête. Mais c'est bien ces algorithmes que vous pointez du doigt, Daniel Cohen, ceux-là même qui sont au cœur du business de Google, de Facebook, de Netflix, d'Instagram et de tant d'autres. Ceux-là même qui fabriquent la pensée d'aujourd'hui et sans doute celle des générations futures. Si on parle de capitalisme numérique, c'est que ces deux notions ont presque fusionné. Internet est devenu l'épine dorsale de nombreux pans de notre quotidien, alors que le capitalisme irrigue nos sociétés depuis plusieurs décennies. Ce couple nous mène-t-il vers un monde meilleur? Oula. Chacun se fera son idée, chacun se fera son idée. En tout cas, l'idéal des débuts du web semble bel et bien avoir été laissé en route.
Quelle histoire ça aussi.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière pour votre éclairage. Alors Daniel Cohen, avec vous, on va quand même entrer un peu plus dans le sujet. Pour reprendre ce que vient de dire Cyril, vous diriez que l'idéal des débuts du web a été perdu en cours de route?
Oui, exactement. En fait, le début du web... C'est évidemment la séquence récente, mais que vous venez de décrire magnifiquement. Mais on peut remonter même un cran plus loin. C'est vraiment dans les années 70 que les pionniers de la révolution informatique, en utilisant ce qui à l'époque s'appelait ARPANET, qui était un système de communication qui avait été pensé par le ministère de la Défense américaine, et que les chercheurs qui étaient en contrat avec le Pentagone avaient le droit d'utiliser, progressivement ils l'ont utilisé pour eux-mêmes. Il y a dans ce moment des années 70, au fond, un rêve, une promesse qui vient elle-même des années 70. Il y a une origine, je crois, dans la contre-culture des années 60, qui est tout en critique par rapport aux figures de l'autorité, par rapport à la verticalité du monde, le patriarcat dans les familles, le mandarinat dans les universités, l'obéissance stricte dans les usines. C'est tout ça qui explose dans cette génération des 60s qui n'accepte pas ce monde d'obéissance. Et les pionniers de la révolution informatique ont cette idée qu'ils sont en train de fabriquer un monde nouveau, d'horizontalité, où toute parole méritera d'être écoutée, où on n'aura plus besoin d'obéir à un petit chef pour savoir ce qu'on doit faire. Et donc, oui, je crois, d'une certaine manière, c'est cette promesse, on va dire, d'ordre libertaire qui a été progressivement trahie, qui a été cannibalisée par d'autres choses qui se sont passées ensuite.
Et si on remonte un peu le temps vers nous, si on regarde ceux qui ont créé les outils dont on se sert tous aujourd'hui, comme Google, par exemple, vous parlez concernant les fondateurs de Google, donc Larry Page et Sergey Brin, de jeunes libertaires qui se sont transformés en ultra-capitalistes. Vous êtes sûr qu'ils étaient si libertaires que ça à la base? Comment on passe de l'un à l'autre?
Oui, alors c'est évidemment le récit qui est fait par Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre qui s'appelle Le capitalisme de surveillance, que je reprends ici, mais qui résume très bien. Ces jeunes gens, c'était pas des libertaires au sens où je viens de le définir, mais il y avait une éthique professionnelle qui était que rien, à leurs yeux, ne devait perturber la qualité, l'indépendance, la neutralité de leur moteur de recherche. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais nous, au départ, quand on avait Internet, on savait pas comment s'en servir. Et il y a eu un truc qui s'appelait AltaVista, qui est le premier truc.
Moi, je m'en souviens, Daniel.
Vous en souvenez? Alors, ça me fait plaisir, Mathieu, qu'on ait partagé ça. Et donc, AltaVista, c'était la première fois qu'on tapait productivité en Chine, et on avait des articles sur la productivité en Chine. Pour ceux que ça intéressait, on pouvait évidemment chercher autre chose. Et Google a radicalisé tout ça, a fait un bond technologique extraordinaire. Mais pour les fondateurs, il s'agissait de garder un instrument parfaitement neutre, pas biaisé. Quand vous tapez productivité en Chine, il n'était pas question que vous alliez sur un site de propagande chinoise ou sur un site de propagande des économistes eux-mêmes. Il fallait rester dans la neutralité. Et alors, ce qui est extraordinaire pour faire cette histoire courte, c'est que c'est un économiste qui s'appelle Al Varian, qui était professeur à Berkeley, qui était qui est un grand économiste. Il a écrit un manuel que tous les jeunes économistes ont lu à un moment ou l'autre, un manuel de microéconomie, et qui leur a dit, mais vous êtes assis sur une mine d'or, vous savez des choses incroyables sur les gens, cette information, vous pouvez les vendre aux enchères. Et tout d'un coup, ils ont compris là, la force de cette information. Ils sont basculés de jeunes libertaires en capitalistes sans foi ni loi.
Mais alors, Daniel, n'hésitez pas à me corriger si je dis une connerie. Mais moi, j'ai lu le bouquin de Shoshana Zuboff, mais il y a déjà 2 ans quand il est sorti. Si j'ai compris, si j'ai bien compris ce qu'elle dit, c'est qu'au moment où ils réalisent qu'ils sont assis sur une mine d'or, quelque part, ils n'ont pas d'autre choix pour que Google se perpétue que de passer à ce système d'exploitation des données, d'en tirer une manne publicitaire. Ou est-ce qu'il y avait un choix éthique pour que Google soit viable sans passer par là?
Mais bien sûr, ils étaient 100 personnes, ils n'avaient pas besoin d'extraire autant d'argent. Non, c'est tout d'un coup, c'est la banalité du mal, je voulais dire comme ça. Ouais. On bascule dans tellement de possibilités d'enrichissement que c'est de fait très compliqué d'y renoncer. Mais au départ, même, on peut faire un dégradé. Je ne fais pas un truc anti-Google, c'est pas ça le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche qui conduit d'un point A à un point B, puis à un point C. C'est qu'au départ, en fait, c'était à la fois cupide, vouloir absolument extraire la rente pour vendre des publicités pour les dentifrices. Mais au fond, c'est un peu stupide. Bon, toute cette intelligence pour simplement dire « Ah, vous allez à la pêche, tiens, je vais vous vendre des cannes à pêche. » C'était un peu ça au départ. Là, c'est tout à fait autre chose qui se joue maintenant.
Ah oui, on va y venir. C'est ciblé et ça cherche à induire nos comportements.
Alors, on va y venir, mais même avant d'arriver à ça, si vous êtes une boîte, n'importe quoi, de menuiserie, que vous voulez faire un peu de publicité sur le net pour que les gens qui cherchent menuiserie à Tours viennent vers vous payez un droit d'usage parce que pour être en tête des recommandations, il faut payer une taxe à Google et en fait, ça devient presque de l'extraction de TVA, quoi. C'est-à-dire, pour utiliser le net, vous devez payer un droit d'usage. Donc, on est là sur un monopole assis plus que sur une rente qui mène à la publicité pour les dentifrices, presque un droit de passage. Donc, ces mers numériques dont ils sont les gardiens maintenant.
Qu'aurait pensé du capitalisme numérique, celui qui brûlait des billets de 500 balles à la télévision? On ne le saura jamais. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est écouter la balade de Melody Nelson, Serge Gainsbourg sur France Inter.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne? Mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés.
Inter. Zoom, zoom, zen.
Zoom, zoom, zen, notre époque à la loupe. Chaque après-midi, on décortique un phénomène de notre temps. Aujourd'hui, l'avènement du capitalisme numérique. On en parle avec l'éminent économiste Daniel Cohen qui vient justement de publier Homo Numericus, la civilisation qui vient. Daniel, à vous écouter, on s'interroge, est-ce qu'elle vient ou est-ce qu'elle n'est pas déjà là, cette civilisation?
Alors, elle est déjà en partie là, mais il y a encore beaucoup de promesses ou de craintes à avoir qui fait qu'elle n'a pas encore exactement donné toute sa puissance. Si vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle, artificielle, c'est-à-dire cette manière en réalité de pouvoir suivre, on parlait tout à l'heure de la publicité en ligne, mais là avec l'intelligence artificielle c'est tout à fait autre chose, c'est d'abord la capacité de véritablement suivre chacun des 8 milliards d'humains qui peuplent la planète aujourd'hui ou dans quelques jours on va franchir ce seuil des 8 milliards, d'avoir toute l'information, de pouvoir faire de la reconnaissance faciale, de faire que quand vous rentrez dans un aéroport, il n'y aura plus de papier à faire parce qu'on saura exactement qui vous êtes. Quand vous rentrerez dans un magasin, il n'y aura plus besoin de payer ou on sait qui vous êtes, on voit ce que vous prenez, vous rentrez, vous sortez, et qui à terme encore, c'est déjà en fait en train de se faire, mais ça va être radicalisé, fait que si vous postulez à une offre d'emploi, s'il y a une proposition qui est faite, vous serez mis en concurrence par l'intelligence artificielle, non pas par les 20 ou 30 personnes quand vous voulez rentrer chez France Inter, voilà, il y a 10 candidats, Mathieu vous sélectionne et puis c'est fini. Là, on va avoir 100 000, 1 million de candidats sans aucune difficulté, parce que l'intelligence artificielle va les présélectionner jusqu'au moment où il en restera évidemment 10 ou 15 à entendre. Et puis si on va encore plus loin, vous pourrez même plus postuler, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va aller visiter toutes les pages web du monde, où vous aurez une petite vidéo de vous-même, bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis sympa, voilà ce qu'il y a dans mon CV, et on viendra vous voir pour vous dire, il y a une offre extraordinaire à New York, j'ai vu que vous parliez anglais avec un accent français, d'ailleurs on la voit dans votre vidéo, donc venez, et en fait très vite, si on se laisse porter par ça, et vous voyez que c'est techniquement déjà à portée de main, on sera complètement dessaisi de ce qu'on veut faire, c'est l'algorithme qui viendra vous choisir pour vous amener d'un endroit A à un endroit B.
Daniel Cohen, tout ça est assez inquiétant, c'est l'avenir qui nous tend les bras, et vous faites un lien entre libéralisme, ultralibéralisme et ce capitalisme de surveillance, ce capitalisme numérique dont on parle.
Oui, parce que je pense qu'il y a, il y a deux sources pour comprendre au fond cette figure qui émerge dans les réseaux sociaux pour aller vite. Il y a d'abord la première dont on a parlé à l'instant, qui est cette figure libertaire, celle qui trouve dans les années 70 l'expression de la protestation des années 60 et qui est profondément, on va le dire simplement, anti-système. Dans la grammaire du langage dans les réseaux sociaux, il y a cette violence anti-système très forte qui vient, je crois, de cette révolte libertaire. Et à l'époque, il s'agissait de produire un monde d'égalité, mais il en est resté cette tonalité qui fait que c'est très difficile d'être une figure de l'autorité sur les réseaux sociaux. Vous êtes immédiatement mis à mal. Mais il y a après cette révolte libertaire des années 60 et cet apprentissage dans les années 70 de la révolution numérique, de ses premiers moments, il y a eu une révolution libérale, celle de Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher et Ronald Reagan, Thatcher disait « la société, je ne sais pas ce que c'est ». C'est un agrégat d'individus, au fond, qui ont besoin d'instruments de communication pour faire société, mais il n'y a besoin de rien d'autre. Il n'y a pas besoin de corps intermédiaires, il n'y a pas besoin de syndicats, il n'y a même pas besoin d'entreprises, il n'y a pas besoin de partis politiques.
Tout est horizontal.
Oui, c'est horizontale, mais une horizontalité qui n'est pas celle des années 60.
Ah non.
C'est une horizontalité, en quelque sorte, qui permet la mise en compétition des uns avec les autres. Ce que fait Reagan et Thatcher, c'est qu'elles transforment cette aspiration à l'horizontalité en une mise en compétition générale de chacun avec tout le monde. Vous n'êtes plus dans une entreprise, vous êtes pigiste, vous êtes sous-traitant, vous êtes constamment soumis à la concurrence du donneur d'ordre en tant que sous-traitant. C'est cette culture qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Quand vous allez sur un réseau social, vous êtes un des réseaux sociaux, vous êtes soumis à ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire, pour vous faire entendre, il faut parler plus fort que les autres. Il faut hurler, il faut montrer, il faut dire l'indicible, montrer l'insupportable. Et c'est ça qui fait que cette culture anti-système, elle s'agrège à une culture très individualiste qui devient en réalité explosive.
Et ça touche même, dans le livre, vous en parlez, les relations amoureuses avec Tinder, vous en parlez.
Alors, bien entendu, parce que au fond, capitalisme, c'est quoi ? Capitalisme, c'est la recherche de réduction des coûts permanente. Le capitaliste, c'est celui qui, bon, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, veut fabriquer moins cher ce qui auparavant était cher, veut fabriquer en une heure ce qui auparavant prenait deux heures. Donc l'obsession capitalistique, c'est la réduction des coûts. Ça s'applique à tout, ça s'est appliqué à l'agriculture, ça s'est appliqué à l'industrie, et maintenant ça s'applique à ce qu'on appelle l'économie de service, c'est-à-dire cette économie où, au fond, les relations interpersonnelles sont très importantes. Vous allez voir un médecin, vous allez voir un psy, vous allez voir voir un professeur, vous allez voir un coach. Ce qui est en réalité en jeu, c'est une relation de personne à personne. Ce que cherche à faire le capitalisme numérique, c'est réduire le coût de cette interaction, c'est-à-dire faire qu'on n'ait plus besoin de se voir en face à face. Et c'est ce qu'on a vu avec le Covid, où tout d'un coup, on a compris que toutes ces technologies numériques permettaient de réduire le coût de rencontrer quelqu'un en direct. Tinder, les relations amoureuses, sont une des illustrations de ce principe. Avec Tinder, et là je reprends les travaux d'une sociologue israélienne s'appelle Eva Ilyus, avec Tinder, il n'y a plus besoin de s'embêter, de prendre du temps, de perdre du temps à quoi ? À se faire la cour. On vient, les algorithmes nous ont mis en vis-à-vis, et la culture du juste à temps dans l'industrie devient, et là c'est Eva Ilyus qui parle, la culture du just fuck, c'est-à-dire on vient, on se connaît à peine, on voit, et puis on passe à l'acte. Ce qui en soi, enfin je ne veux pas apparaître comme le vieux con, ce qui en soi n'est pas un drame. C'est pas mal de pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas dans votre milieu. Le problème, c'est que très vite, on bascule, comme dans l'industrie, dans la culture du chiffre. On ne se satisfait pas d'avoir rencontré une personne. On veut en rencontrer autant que l'algorithme permet d'en rencontrer.
Ça, et là,
évidemment, on passe du qualitatif au quantitatif et on est dans le travail à la chaîne. Sauf que c'est des relations amoureuses. Mais c'est exactement l'esprit capitalistique qui était en vigueur dans la société industrielle d'hier.
Alors, certains ont quand même plus d'armes pour résister à ce capitalisme numérique. Contrairement à moi, lui, il sait déjouer tous les pièges du capitalisme numérique. Quand il reçoit un mail, vous avez gagné le gros lot. Pour le récupérer, envoyez juste 350 euros à l'adresse suivante, 3 rue Oufouette-Boigny, 54 390 Yamassoukro, Côte d'Ivoire. Il ne clique pas bêtement en s'exclamant youpi comme moi, mais bon, il envoie quand même son petit chèque parce qu'il est gentil. C'est Quentin, lui, notre reporter de terrain. Alors, Quentin, ce capitalisme numérique, est-ce que c'est une notion qui parle aux gens que vous avez croisés ?
Pas vraiment, c'est vaste. Je vous ai retrouvé place de la Bastille à Paris hier soir pour discuter du capitalisme numérique. Je sors du métro, au pied de l'Opéra Bastille, sorte de paquebot culturel, et on commence avec Fatima, elle a la quarantaine, les lunettes de vue relevées sur une épaisse chevelure frisée qui donne toujours cette association lunettes serre-tête. Elle se penche sur notre pancarte et me dit ce que lui inspire la notion du jour dans Zoom Zoom Zen.
Le capitalisme numérique, ça m'inspire les GAFAM, leur omniprésence en fait dans notre vie. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est partout dans notre vie et en même temps ça a une puissance qui nous échappe aussi parfois.
Une puissance qui nous échappe, qui nous surprend, mais la puissance de l'algorithme publicitaire peut aussi se tromper, écoutez.
Oui, enfin, parfois c'est presque flippant en fait de voir à quel point ils peuvent anticiper nos besoins. Et parfois, ils se trompent. Régulièrement, j'ai des pubs pour Justin Bridou alors que je mange pas de porc, ça me fait rire. J'ai des pubs pour les hijabs alors que je porte pas le voile. Enfin, c'est voilà, donc c'est assez rigolo. Il se plante, mais c'est pas grave, c'est tant mieux en fait. On garde quand même une part de libre arbitre et d'individualité, mais d'individualité dans certains cadres. Et heureusement.
Au pied de la colonne Bastille, je rencontre Étienne. Il a 29 ans, le sweat couleur pastel avec un mot brodé sur les pecs, AirPod sur les oreilles, cheveux en brosse et la barbe de 3 jours. Étienne, c'est à notre concept du jour.
D'accord, le capitalisme numérique. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Enfin, je sais pas trop quoi en penser, on va dire. Je suis plutôt intrigué, genre... j'écouterai l'émission pour voir ce que ça veut dire, plutôt. Tu vois ce que je veux dire, genre...
Il me confie qu'il est créateur de personnages 3D dans des films d'animation et de jeux vidéo. Bah, je trouve qu'il est quand même dans le thème.
Totalement. Alors là, ils sont... Bonjour, hein, nous sommes la filière la plus rentable du monde avec tous les plus gros studios du monde qui sont... Enfin, je veux dire, par exemple, on prend Supercell, ceux qui font Clash of Clans, Clash Royale. Le plus gros investisseur, c'est Tencent. C'est un des plus gros géants chinois. Bon, bah voilà, déjà là, on a beau avoir des petits studios où ils sont pas énormément. Derrière, il y a des forces de frappe, c'est des gros studios, c'est des machins.
Et ça fait de la grosse moula. Voilà. Mais Étienne n'est pas qu'un vendu au grand capital. Il a des trucs qui l'agacent dans le capitalisme numérique.
Moi, ce que j'aime pas, c'est genre toutes les pubs qui passent de partout. Et du coup, bah, je regarde plus trop la télé. Mais je regarde par exemple Netflix et des trucs comme ça parce que moi je peux voir juste le programme que j'ai envie de regarder, ou j'écoute plus la radio mais j'écoute Spotify parce que je peux écouter juste la musique que je veux et il n'y a pas toutes les pubs qui te servent à rien et que t'as pas envie d'écouter, etc. Donc j'essaie de contourner les choses comme je peux, mais j'avoue que...
Vous le contournez en payant?
Bien sûr. Ah oui, ça, totalement. Et du coup, au final, on refile quand même d'argent. Ça, c'est clair et net.
Eh oui, forcément. Notre dernière rencontre, écoutez bien, c'est Nicolas. Il est professeur d'économie à Paris Dauphine. Il porte une veste en cuir avec une veste à capuche qui dépasse, le sac en bandoulière où il y a plein de cours dedans. Que dit-il de notre thème du jour ?
Ah, le capitalisme numérique, oui. C'est quand même une révolution qui est absolument extraordinaire, hein. La puissance de frappe de Gutenberg, hein, c'est certain. Je sais pas, moi, j'ai peut-être là, dans mon petit portable de 400 grammes, j'ai peut-être 600 000 tonnes de livres, quoi.
Alors, c'est chouette, d'accord, ok, mais si on creuse un peu.
En fait, ce que ça dit entre les lignes, c'est le taux de plus-value extorqué sur la force de travail des gens, puisque le capitaliste, c'est ça, c'est celui qui est propriétaire des moyens de production et qui va extorquer des taux de plus-value que le travailleur qui travaille pour le capitaliste ne verra pas, quoi.
Quelqu'un a compris? Pas trop. Okay.
Daniel, peut-être.
Nicolas, un exemple tout prêt pour illustrer le propos. Écoutez.
Vous allez chez Bricorama, vous achetez trois planches, une perceuse, vous retrouvez un samedi après-midi file d'attente importante. En fonction de la structuration névrotique des clients, bon, un gars comme moi, je suis misanthrope, donc je me dis, j'ai pas envie de me retrouver dans une file d'attente pendant une demi-heure. Et on me dit, ah monsieur, voulez-vous scanner vous-même vos produits? Alors bien sûr, vous dites oui. Bon, et résultat, ils vous font travailler, ils vous paient pas, vous voyez. Bon, ça, c'est le capitalisme numérique, quoi, vous voyez. Et là, vous avez un taux de plus-value extorqué sur ma force de travail, ou fort de leur payer bon, ce que j'ai acheté, hein, qui est normal, j'étais d'accord avec le prix. Eux, eh bien, vous en a qui vous ont embauché, mais gratuitement.
CQFD, voilà un cours magistral complètement à la rue, ou pas.
Sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle ère du capitalisme, le capitalisme numérique? Qu'est-ce qui a changé? On essaye de comprendre cet après-midi en compagnie de l'économiste Daniel Cohen. Daniel, on vient d'entendre avec ce professeur d'économie, le capitalisme numérique vous fait travailler sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est le principe de réduction des coûts, en fait. C'est la question, elle est en effet que vous payez avant quelqu'un à la caisse, comme vous aviez il y a très très longtemps des poinçonneurs dans les métros. Est-ce que vous l'avez connu, Mathieu, le
poinçonneur? Non, alors ça, non, là, je ne suis pas là-dessus, Daniel, là, c'est
un forfait. Gainsbourg l'a chanté.
Donc voilà, j'ai gagné. Donc voilà, et on réduit les coûts constamment. Et en l'occurrence, c'est ça la différence avec le capitalisme industriel. Dans le capitalisme industriel, on cherchait à faire que l'ouvrier derrière sa chaîne de montage puisse de plus en plus vite serrer les boulons, la matière se déplaçait. C'était le rapport de l'homme à la matière qui était en jeu. Là, c'est le rapport de l'homme à l'homme. C'est ça qui est optimisé. Donc, vous aviez une caissière, vous n'avez plus. Vous aviez un enseignant, vous n'aurez plus. Vous aviez un médecin, vous n'avez plus. C'est ça le but. C'est une organisation qui obéit au même principe, réduire les coûts, sauf que là, c'est le travail de l'humain sur l'humain qui est optimisé. Donc, c'est une rupture d'une nature nouvelle, presque anthropologique en réalité.
Quentin.
On a entendu Fatima qui nous parlait des pubs ciblées, qui peuvent se tromper. L'Europe a pris les choses très au sérieux, puisque cette année, en avril, l'Europe a adopté une nouvelle loi dite Digital Services Act. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Plus de transparence dans les algorithmes, et puis pas de publicité ciblée en fonction de l'orientation sexuelle, affiliation politique ou origine. C'est raté, là.
Oui, non, bien sûr. Mais
on peut contrôler ça?
Il faut le contrôler et on n'y arrivera évidemment jamais tout à fait. Mais le point essentiel, c'est que cette histoire de la publicité, on vient vous embêter à vous vendre des cannes à pêche ou des choses, etc. C'est agaçant. Mais je pense que ce qui se joue est beaucoup plus important que ça. Mmh. Ce qui se joue, c'est une espèce de dualité du monde dans lequel l'intelligence artificielle, les algorithmes vont prendre en charge beaucoup plus que simplement la publicité qui se substitue à celle qu'on peut avoir à la radio. Je donnais l'exemple des procédures de recrutement, mais il y a beaucoup d'autres exemples que l'intelligence artificielle se prépare à faire. Dans le livre, je cite cette idée que les juges, en réalité, au regard de critères simples et objectifs, qui est quel est le taux de récidive des personnes qu'ils ont libérées, les juges font aujourd'hui moins bien que les algorithmes. L'algorithme est plus précis.
Vous n'allez pas vous faire des amis, là.
Dans sa capacité, alors soit à remettre en liberté conditionnelle plus de gens pour un taux de récidive donné, soit pour un nombre de gens qui vont en prison, réduire le taux de récidive. On le sait déjà. Donc, évidemment, jamais on acceptera dans l'histoire humaine d'être jugé par un algorithme. Ça n'est pas possible, même s'il est plus précis. C'est mais on voit que les juges, progressivement, auront un assistant. Un peu comme dans Star Trek. Un assistant qui dira, celui-là, taux de récidive 97%. Alors, vous dites, mais c'est pas du tout ce que moi j'avais prévu. Et vous allez comprendre que l'algorithme comprend mieux que vous, y compris d'ailleurs vos propres préjugés. Parce que l'algorithme peut être calibré pour ne pas avoir de préjugés, de race, de sexe, etc. Donc, le juge juge, en fait, va faire l'apprentissage de son propre jugement par les algorithmes. C'est pour ça la publicité, on peut en parler, mais c'est quelque chose de beaucoup
c'est
plus civilisationnel qui est en train de se préparer.
On continue à parler capitalisme numérique dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Daniel Cohen qui signe chez Albin Michel le passionnant Homo Numericus, la civilisation qui vient. Mais d'abord, Daniel, on se connaît peu, mais je crois détecter chez vous une appétence pour les crooners belges. Voici pourquoi je me permets de vous proposer d'écouter un extrait d'Opex, l'album posthume d'Arnaud qui vient de sortir. Comme le Black Star de David Bowie, Arnaud a conçu, enregistré et validé ce disque jusqu'à sa mort. Un album France Inter. Voici Honnête.
Tu veux changer qui ? Tu veux changer moi ? Ou tu veux changer toi ? Sorte ton bazar avec une bonne histoire. Change-toi et appelle-moi. Oh oui, moi je suis honnête. Tu joues bien la trompette. Mais oui, moi je suis honnête. Mais tu joues bien la trompette. J'en ai marre de tout ce bazar. Quand tu fais du cinéma, quand y a pas de bon savon dans ma salle de bain. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette.
Écoutez Zoom Zoom Zen, l'économiste Daniel Cohen est notre invité cet après-midi pour décrypter la mutation récente du capitalisme vers un capitalisme numérique aussi appelé de surveillance par votre collègue Shoshana Zuboff qui va au-delà de la célèbre formule qu'on connaît tous, si c'est gratuit, c'est vous le produit, en le reformulant ainsi, vous n'êtes même pas le produit, vous êtes la carcasse abandonnée, le produit provient du surplus qui est arraché à votre vie. Pour renouer avec un semblant de joie de vivre, je vous propose qu'on fasse une pause ludique avec le Zoom Zoom Test. Rarement, la formule « l'homme est un loup pour l'homme » aura été aussi bien illustrée qu'avec ce quiz où tous les coups sont permis, un quiz dédié aujourd'hui au monde merveilleux des GAFA. Manon, Quentin, Vaugon sur la rivière enchantée de l'extraction de données. Connaissez-vous, Daniel, vous pouvez jouer aussi, connaissez-vous la start-up AC Global Risk ?
Pas du tout.
C'est dommage,
car si vous aviez eu la jugeote d'investir dans cette start-up en 2016, vous ne seriez pas là à trimer pour des clopinettes et le midi, vous ne mangeriez pas des sandwichs au camembert. Vous seriez probablement sur un yacht au large d'Acapulco à vous envoyer du caviar comme Daniel quand il touche ses droits d'auteur. Et pour cause, depuis plusieurs années maintenant, les géants du web, Google en tête, font appel à un outil redoutable développé justement par AC Global Risk. En quoi consiste cet outil ?
A, il permet de contourner le mode navigation privée et de voir le vrai nombre de fois où vous avez regardé Pornhub.
Ça, je sais pas.
Ne faites pas l'innocent, Quentin, Google, eux, ils savent. Et 428 fois en un mois, c'est pas joli joli. B, c'est un outil qui permet de savoir à la manière dont vous tripotez votre souris si vous êtes un pervers ou pas. Ou C, c'est un outil qui permet de mesurer la dangerosité d'un individu au son de sa voix.
C, je dirais.
Ah, B. B.
Peut-être la souris. Vous, c'est les gens qui tripotent les souris. Daniel, vous êtes plutôt...
C'est
exactement. C'est la bonne réponse. Alors, on réembarque sur la rivière enchantée. L'outil développé par AC Global Risk, baptisé RRA, permet de classer les individus uniquement par leurs intonations et déterminer ainsi le niveau risque d'un individu, qu'il s'agisse d'un candidat à un entretien d'embauche, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ou même, alors ça c'est très joli, un réfugié ou un demandeur d'asile, comme l'explique sans gêne le patron de AC Global Risk, Alex Martin. RRA est la solution à la monumentale telle crise des réfugiés que connaissent actuellement les États-Unis et d'autres pays. Ah bah oui, une solution effectivement assez parfaite et qui ne pose aucun problème éthique. C'est comme si ici on décrétait que Cyril Lacarrière était un homme dangereux simplement parce que son rire est chelou. Ouais, en même temps, lui, il a vraiment l'air chelou. Bon, il a l'air dangereux. Attention, top ! Afin de reprendre la main face aux géants du web qui exploitent sans vergogne nos données, nous avons, en tant qu'utilisateurs du web, des moyens d'agir. Parmi les pratiques suivantes, laquelle est utilisée par de nombreux hackers et internautes de par le monde ? A. Le cloud fucking, qui consiste à uploader un maximum de fichiers lourds dans le cloud pour le saturer. B. Le data poisoning, qui consiste à brouiller les pistes de nos données et en fournissant de fausses informations, ce qui finit par rendre chèvre l'algorithme. Ou le song poisoning, qui consiste à diffuser en boucle des reprises tellement foireuses qu'elles sont susceptibles de faire crasher les serveurs.
Je suis une cruche. B, B.
Bah oui, c'est réponse B. B, c'est Manon qui remporte le quiz. Bravo, une méthode, le data poisoning, une méthode qui consiste à fournir des données inutiles ou nuisibles pour influencer les systèmes de recommandation.
Oh,
en pratique, vous installez sur votre navigateur l'extension Ad Nauseam, par exemple, qui va cliquer sur toutes les publicités qui vous sont proposées, ce qui pollue les algorithmes de ciblage publicitaire. Le tour est joué, sauf qu'évidemment, cette extension est blacklistée du Web Store de Google. Si vous voulez l'utiliser et vous amuser à polluer Google, vous devez donc installer Firefox. C'est une belle victoire de Manon. Une de plus, mon
Merci,
pauvre Quentin.
Oui.
Ah, il n'y a pas de troisième.
Il n'y a pas de troisième.
Ah, d'accord. Très
non,
bien.
C'est fini. Ainsi en ai-je décidé. Daniel Cohen, vous venez de publier Homo Numericus chez Albin Michel. Avec vous, on tente de comprendre les ressorts de ce nouveau capitalisme numérique qui nous concerne tous, on s'en rend vite compte à travers les exemples qu'on a cités. Dans un entretien récent à Libération, vous disiez que dans le capitalisme numérique se dessine un crétin géré algorithmiquement. Une logique qu'il faut casser, disiez-vous. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, mais comment on le casse maintenant? Et puis qui s'y colle? Est-ce que c'est l'État, le politique, ou nous individuellement?
Alors c'est, je pense... Pas l'État, ça ne suffira pas. Oui. Et nous, individuellement, ça ne suffira pas non plus, sauf à être dans la sainteté, débrancher tous les algorithmes et aller sur une montagne. Même si il faut aussi voir que beaucoup d'expériences ont été faites qui montrent que quand on se débranche des réseaux sociaux pendant un mois, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis. On a payé les gens, je ne sais plus combien, assez cher, pour qu'ils se débranchent pendant un mois. Et à la fin de cette expérience, on voit que leurs syndromes d'anxiété ont baissé, que la polarisation de leurs idées politiques elles-mêmes a baissé et qu'ils ont eu plus de temps pour voir leurs amis et la télévision. Donc c'est pas non plus exactement un jeu magnifique, mais on voit que l'addiction aux réseaux sociaux est quelque chose de très lourd. Non, moi je pense que la vraie menace qui pèse sur nous, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, c'est le fait que progressivement, comme individu, on n'est pas d'autre choix que d'être dedans ou d'être complètement dehors. Or, ce qu'on veut, c'est d'être protégé, pas seulement comme individu, mais par des institutions auxquelles on appartient. Je disais que, au fond, le point aveugle où se rencontre la révolution libertaire et libérale, c'est qu'elles ont désinstitutionnalisé le monde. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de partis politiques à proprement parler. Donc ça veut dire que on n'a plus même d'entreprises, on n'a plus ces murs protecteurs que pouvaient être aussi, que devraient être encore les communautés de savants. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut préserver. L'exemple que je donne dans le livre, c'est quand vous prenez un avion, vous voulez pas penser que c'est l'intérêt de la compagnie qui garantit que l'avion va pas se crasher. Parce que si c'est le cas, une entreprise au bord de la faillite, elle s'en fiche, au fond, de prendre la probabilité 1%. Vous voulez que le pilote, il appartient à un corps professionnel, qu'il ait une éthique professionnelle qui permette justement de garantir que le capitalisme n'ira pas jusqu'à ronger celle-ci. Et c'est pas le pilote tout seul qui doit prendre la responsabilité de se dire « Non, je décolle pas parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il est vidé demain matin. » Il faut qu'il y ait une solidarité de corps. C'est ça qu'il faut retrouver. Les médecins peuvent
peuvent faire de la télémédecine. Ça ne me gêne pas, mais je veux que ce soit eux qui soient garants. Les juges peuvent utiliser ces applications, mais je veux être sûr que les juges seront garants comme corps, pas juste comme individus. Et même chose pour les enseignements. Je veux, pourquoi pas, on peut utiliser des trucs numériques pour s'assurer que les étudiants suivent bien. Mais il faut que tous ces corps intermédiaires que la révolution numérique est en train d'éliminer résistent, se révoltent collectivement. Et là, oui, peut-être qu'on fera le meilleur usage de la révolution numérique, mais il faut échapper à cette idée que c'est l'État ou l'individu. C'est au milieu, je crois, que ça se joue.
Mais il faut quand même, à vous entendre, une sacrée prise de conscience. On n'y est pas encore, à cette prise de conscience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, hein, très clairement. C'est l'argument de ceux qui défendent les GAFA, ou en tout cas qui s'y opposent pas. Oui, c'est mal de nous surveiller, d'utiliser nos données pour mieux nous vendre des biens et services, mais d'un autre côté, qui accepterait aujourd'hui de vivre sans Google, sans Waze, par exemple, quand vous allez à un rendez-vous, vous connaissez pas l'adresse. Enfin, ça serait un retour en arrière.
C'est pour ça qu'il faut éviter ce choix. Si c'est ça le choix, on va aller en avant, oui. Bien entendu, c'est certain, parce que ça rend des services. C'est comme l'histoire de Tinder dont on parlait. Mmh. En première intention, c'est formidable. Puis il y a un moment où ça bascule et ça devient abêtissant. Donc, comment trouver la juste mesure? Ben, justement, en ayant des enseignants, des médecins, des journalistes qui luttent contre les perversions de ce monde. Il y a une statistique que je trouve extraordinaire, c'est la diffusion des fake news. Une fake news, en fait, il y a une étude récente qui a été faite par la revue américaine Science, une fake news circule 20 fois plus vite qu'une information authentifiée. Et quand il s'agit d'une fake news politique sur un homme politique qui aurait fait ceci ou cela, ça circule 3 fois plus vite que ces 20 fois plus vite. C'est-à-dire on est dans des ordres de grandeur extraordinaires. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour ça. La fake news, elle est faite pour attirer l'attention. Et parmi toutes les choses dont on a parlé, il y en a une autre que je veux ajouter, c'est que cette taylorisation du monde qu'on est en train de vivre avec des algorithmes qui optimisent les choses, elle est aussi en train de se faire dans le domaine des idées, dans les domaines de la conscience, dans les domaines de la vie politique. C'est-à-dire que les algorithmes, en réalité, sont en train de construire une psyché différente. Si vous pensez que les événements du 11 septembre ont été fabriqués par la CIA, hein, c'est un coup monté. Si vous pensez que la guerre en Ukraine, elle a été voulue par les groupes pétroliers ou gaziers pour s'enrichir, vous cliquez sur le net et vous allez trouver un million de gens qui pensent comme ça. Et vous rentrez dans un ghetto numérique dont il devient très difficile de sortir. Et c'est ça contre quoi il faut lutter avec des journalistes professionnels, avec toutes sortes de choses qui sont autant d'anti-pouvoirs à cette capacité d'aimanter de manière totalement industrielle des gens autour de ce qui les rassemble et qui peuvent être le bien comme ils peuvent être le mal, sans principe en réalité de vérité derrière ces associations.
Et est-ce que intrinsèquement le capitalisme numérique, en fait les réseaux sociaux, ne poussent pas les gens vers les extrêmes, une sorte de binarité comme ça? Il y a une étude, vous citez une étude dans le livre, on désactive les comptes Facebook des participants pendant un mois, et qu'est-ce qu'on constate ? Une baisse des penchants extrémistes des abonnés au bout d'un mois.
Mais bien sûr, si vous mettez bout à bout les deux points que j'ai dit, c'est-à-dire d'abord une économie de l'attention où pour se faire entendre, il faut parler, il faut crier, il faut montrer l'innommable d'un côté. Si vous regardez ensuite cette propension, ce qu'on appelle le fait que quand vous allez sur le net, vous ne cherchez pas des informations, mais vous cherchez des confirmations de vos préjugés. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, qui en soi n'est pas aberrant. Tous, quand on pense, on a une idée et on cherche au fond à la tirer jusqu'au bout. Les plus grands savants ont une idée et puis voilà, et ils cherchent à la prouver. Sauf que quand on est entre savants, il y a des protocoles qui font que tu penses que je sais pas quoi, la Terre est plate, désolé, elle l'est pas et on a toutes les preuves que tu te trompes. Ah ok, je passe à autre chose. C'est comme ça que ça marche. Dans le net, il y a pas ce protocole de mise en vérité. Je pense n'importe quoi, je vais trouver des gens qui pensent comme moi et je m'affranchis du jugement des autres. Si vous mettez les deux, attention et confirmation, vous avez la clé d'une polarisation qui nous échappe complètement.
Vous écoutez France Inter. Il est 16h47 dans quelques instants, venu spécialement de Suisse pour nous et qui plus est à ses propres frais. Yann Marguet nous livrera sa vision du capitalisme numérique. Mais juste avant, Manon Mariani, je me tourne vers vous car j'ai très envie, là tout de suite, de savoir ce qui va faire parler demain. Et je me suis laissé dire que vous le saviez grâce à votre veille sanitaire sur les réseaux. Aujourd'hui, direction la Chine, vous nous parlez de nouvelles applications qui chamboulent pas mal les mœurs du pays.
Elles s'appellent Momo, Tantan ou Easy, de drôles de noms, mais gros succès. En 5 ans, les téléchargements de ces applications de rencontres ont tout simplement triplé. Dans un pays aussi répressif que la Chine, où les mineurs ont quand même un droit de temps limité sur les jeux vidéo, personnellement, j'aurais jamais pensé que leur nouveau secteur florissant de la tech serait tourné vers la recherche de l'amour. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient 240 millions de célibataires là-bas, j'ai un peu compris leur désarroi. Un chiffre pour comprendre l'ampleur du phénomène là-bas. En 2019, les investissements dans les applications de rencontres étaient de 300 millions de dollars. Elles sont aujourd'hui de plus de 5 milliards. La raison principale de ce bond, c'est bien sûr le Covid, oui, qui limite nos rencontres depuis 2020, et encore plus en Chine, où les habitants jonglent encore aujourd'hui entre confinement, restrictions et tests excessifs. D'ailleurs, les Chinois disent que sans ces applications, ils ne rencontreraient plus personne, car au-delà de rencontrer le grand amour, 89% d'entre eux déclarent surtout vouloir élargir leur cercle social. Les applications en Chine deviennent donc bien plus que des machines à date ratées, mais de vrais réseaux pour se faire des amis.
Et comment les autorités chinoises réagissent face à ce phénomène ?
Eh bien, si on aurait pu penser qu'elles voudraient limiter ce genre d'applications car elles ne sont pas très fans de la mixité sociale, en fait, ça les arrange pour la simple et bonne raison que le pays est en plein déclin démographique. Les mariages sont en baisse et le taux de natalité est au plus bas. Un paradoxe alors que le pays a levé sa politique de l'enfant unique il y a 6 ans déjà. Et on aurait pu donc imaginer que les naissances allaient augmenter et c'est finalement l'inverse qui se produit. Alors il y a quand même eu déjà certains soucis sur ce type d'application que Pékin essaie quand même de contrôler. Par exemple, les autorités ont suspendu temporairement Momo et Tantan car elles ne contrôlaient pas assez les contenus pornographiques. Le fondateur de l'application de rencontre Gabe Lude, lui, a démissionné en disant qu'il était trop compliqué d'avoir une application LGBTQIA+, dans un pays comme la Chine. Et puis, ces applications ont tout de même été accusées de cultiver la tendance des coups d'un soir. Et ça, ça embête Pékin, forcément. Du coup, certaines applis ont changé leur dispositif en mettant moins en avant le physique de ses utilisateurs et en privilégiant leur centre d'intérêt. Bon, après, ne nous voilons pas la face, Mathieu, même en changeant les fils, si des utilisateurs cherchent juste à avoir un rapport sans lendemain, ils y parviendront toujours. D'autant plus que toutes ces applications sont basées sur le désormais indétrônable concept du swipe à gauche. Si vous n'aimez pas un profil, à droite, si vous l'aimez, attente, stress, la personne va-t-elle matcher avec moi en retour, tout ça. Il faut savoir aussi que ces applications marchent très très bien chez les étrangers car elles ont toutes des versions anglaises. Et les Chinois aiment beaucoup matcher avec des expatriés car pour eux, ils ont un statut social important et ça leur permet de se démarquer.
Mais parmi toutes les applications qui marchent en Chine, pas de traces de Tinder ou de Bumble, les deux plus populaires ?
Eh bien parce qu'elles ne sont pas accessibles là-bas et donc ça veut dire que l'espace est grand ouvert aux autres applis qui veulent se faire une place dans le monde de la tech. Et bonne nouvelle pour elles, les Chinois veulent remédier à leur solitude. En plus, il faut quand même avoir en tête que dans la culture chinoise, il est très mal vu d'être célibataire à plus de 30 ans. C'est même perçu comme un échec social. Ne me regardez pas comme ça, Mathieu.
Je vous regarde comme ça, ça n'a rien à voir.
Oui, bien sûr. Pendant longtemps, les coutumes maritales chinoises étaient très strictes avec notamment beaucoup de mariages arrangés. Mais les temps changent et on le voit avec l'explosion de ces applications de rencontres. Les jeunes Chinois veulent vivre avec leur temps en coupant avec les anciennes générations. Et pour ça, ils utilisent les outils dont ils disposent, comme nous.
Et comme vous. Merci beaucoup Manon Mariani. L'homo numericus est décidément fascinant. Pour nous remettre de nos émotions, je pense que quelques minutes de Rosalia ne seront pas de trop. Despecha sur France Inter.
Se sale con toda mi moto, mami, con todos mis chales. Que ando despechada, aloca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando despechada, aloca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema.
Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami.
Yo ando de
baby, the-
por Santo Domingo. La Rosalía.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen spécial capitalisme numérique entre dans sa dernière ligne droite, toujours avec Daniel Cohen, mais également avec un garçon qui voit assez peu d'alternatives au capitalisme, il faut l'excuser, il est suisse. Bonjour Yann Marguet.
Et oui Mathieu, Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours. Cette phrase qui passe encore mieux sur un petit ukulélé de merde, la preuve. Facebook, c'est gratuit. Et ça le restera toujours. C'est celle qui apparaissait à l'époque sur la page d'accueil du plus gros réseau social du monde. Et je dois avouer qu'au début, elle me faisait un petit effet, cette phrase. Elle me procurait une petite émotion. Juste avant de me connecter, le sentiment de m'apprêter à rejoindre un bon copain qui me voulait du bien. 15 ans plus tard, avec une meilleure connaissance du big data, je suis néanmoins capable de lui opposer aujourd'hui cette critique tout aussi amicale. Et mon cul, c'est du cantadou. Ce qui est fou quand on regarde l'histoire d'Internet, comme celle de toutes les révolutions par ailleurs, c'est de voir à quel point tout cela partait d'un bon sentiment. Hein. Non mais vous lisez les premiers textes sur le droit des internautes et l'indépendance du cyberespace, vous chialez. Donc. Vous chialez. Vous lisez John Barlow, pionnier du World Wide Web en 96, c'est Michel Serrault dans deux ans moins le quart avant Jésus-Christ. Hein. Oh, le gouvernement du monde industriel, vous n'avez aucun droit sur nos lieux de rencontre. Nous créons un monde où chacun et chacune peut exprimer ses idées sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme. Au silence ou à une norme. 15 ans plus tard, Instagram, tu montes trop de nichons, t'es viré, t'en montes pas assez, personne te voit. Bim, dans ta gueule. Ah non, mais le capitalisme, je vous jure, c'est dingue. Hein. Toujours là où on l'attend. C'est le Nadine Morano de l'économie. Dès qu'il y a une connerie à faire, ah, il est là. Et créatif, ce petit bâtard. Hein. Surveillance, exploitation, vocabulaire, hein. Taux d'engagement, incubateur de start-up, machine learning, data mining. C'est bien simple. À chaque fois que j'entends le champ lexical du numérique, j'ai l'impression de sortir de questions pour un champion en ayant gagné le petit Larousse des trous du cul. Les algorithmes, Mathieu, j'y comprends rien. Déjà, je ne comprends pas le rapport avec Al Gore. Et de toute façon, je suis nul en maths. Et autour de cette table, à l'exception de Daniel Cohen, je pense que je suis pas le seul. Hein. Et pourtant, vous, comme moi, comme nos patrons, comme nos politiciens, et comme la tiktokeuse Falbala Poème, on passe notre temps à se plier à leur moindre désir, en devant être pertinent en moins de 15 secondes dans des vidéos sous-titrées au format 7/13, parce que ce qui marche en moment, c'est la vidéo snack. Non mais regardez-nous courir après des programmes qu'on a nous-mêmes créés, inventer du contenu pour les réseaux sociaux pour pas un rond, jeter en pâture nos données personnelles à des marques qui viennent nous draguer comme des gros lourds, parce qu'Internet dans la vraie vie ce serait ça, hein. Vous êtes sur une terrasse avec des potes, vous discutez tranquillement de la vie et tout d'un coup il y a Nike qui arrive et qui dit écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation et je trouve que vous avez une personnalité ébouriffante. Et encore Nike, ça produit quelque chose, des Nike et des crétins comme moi qui les achètent. Mais les plus grands génies de notre temps, Mathieu, c'est les plateformes. Airbnb qui fait des milliards en louant des apparts qui sont pas à eux, Uber qui fait des milliards en utilisant des bagnoles qui sont pas à eux, et tous qui font des milliards en vendant des données qui sont à nous. Donc nous, on fait quoi? Des vidéos snack. Le capitalisme numérique, un grand système un peu foutraque, donc dans lequel l'humain est à la fois créateur, vecteur, marchandise et esclave. On fait tout, finalement, à part encaisser le pognon. Ça, c'est pour les GAFAM qui se partagent le plus gros gâteau de l'histoire de la boulangerie-pâtisserie économique. D'ailleurs, peut-on encore parler de capitalisme quand 5 boîtes sont assez puissantes pour racheter, contrôler et étouffer toute velléité concurrentielle à leur égard? À l'aube du basculement planétaire dans le métaverse, hein, un faux monde pour remplacer le nôtre qui se meurt, avec des fausses ressources qu'on va pouvoir miner pour de faux, tout en générant du vrai bénéfice pour les mêmes qu'avant, on se demande si la politique saura ou voudra un jour réguler et dompter le loup de la Silicon Valley qui a pris un peu à peu la place de celui de Wall Street. Je sais pas, mais en attendant, deux choses sont sûres. Mon cul cul, c'est pas du Cantadou. Et Facebook, c'est pas gratuit. Et ça ne l'a jamais été.
Merci beaucoup Yann Marguet pour cette chronique exceptionnelle. Daniel Cohen était notre invité pour son livre Homo Numericus, la civilisation qui vient. Vous avez un dernier mot, Daniel, sur ce. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé?
Non, on a tout.
On a tout dit.
On a tout dit, c'est merveilleux.
On a fait le tour. Merci Daniel Cohen, je rappelle ce livre Homo Numericus. Merci Manon Mariani, Quentin Lui, Gaëtan Collier à la réalisation, Vincent Désière à la technique. Zoom Zoom Zen, c'est fini. Et maintenant, on retrouve l'Homo Belgicus. C'est encore eux. Bonjour Charline Van Hennecker.
Bonjour Mathieu Noël.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien, très bien.
Vous êtes en forme aujourd'hui?
Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis en forme parce qu'on reçoit Bernard Lavillier.
Oh bah là, forcément.
Oh là là, c'est chaud.
Vous allez pousser la chansonnette en duo avec lui?
Oh, j'aimerais tellement.
Si, je vous lance le défi. À tout de suite, Charline.